Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, au chapitre 6. Et le verset 16, livre de Jérémie, chapitre 6 et verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Et dans le livre des psaumes, au chapitre 16, et au verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ma méditation ce matin, j'aimerais commencer par un préambule. Un préambule en posant des questions et en donnant les réponses. Vous n'allez pas vous casser la tête, parce que vous connaissez les réponses, alors je vais vous les donner. La première question, la parole de Dieu est-elle vraie? Évidemment. Jésus, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 17, a prié en disant, en parlant de ses disciples, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Nous sommes affranchis. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Ta parole est la vérité. Et c'est Jésus qui le dit, et si Jésus le dit, je pense que vous serez d'accord avec moi en disant, c'est la vérité. La deuxième question, qui suit la première évidemment, est-ce que toute la parole de Dieu est vraie? Ou c'est seulement en partie? Celle que nous aimons, celle que nous préférons, parce qu'il se pourrait, je n'en sais rien, je parle au conditionnel, il se pourrait que nous fassions des choix. Est-ce que toute la parole de Dieu est vérité? L'apôtre Paul écrivant à Timothée, de Timothée 3,16, il lui dit, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre. » Donc, toute la parole de Dieu, sans distinction, est la vérité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'exprime dans la Bible est vrai, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Quand le diable a induit en erreur Adam et Ève, il a menti. Donc, ce n'est pas vrai. Mais le rapport de ce qu'a dit l'adversaire est vrai. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu est toujours d'actualité? Attention à la réponse. Est-ce que la parole de Dieu est toujours d'actualité? Et je la couvrai en morceaux en disant, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est toujours d'actualité? Est-ce que la guérison divine est toujours d'actualité? Est-ce que les dons spirituels sont toujours d'actualité? Est-ce que l'attente du retour du Seigneur est toujours d'actualité? Je veux dire par là, est-ce que nous attendons toujours le retour du Seigneur? Ou alors serions-nous comme les gens de l'Église primitive qui disaient où est son avènement depuis le jour dont on entend parler? Non. Est-ce que nous attendons toujours le retour du Seigneur? Parce que figurez-vous, il faudra bien qu'une génération accueille le retour du Seigneur, fasse partie du retour du Seigneur. Elle sera là. Est-ce que ce sera la nôtre? Je n'en sais rien, mais il y en aura une. Et maintenant, ce n'est pas pour vous tendre un piège que Dieu m'en garde. À qui s'adresse la parole de Dieu? Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Parce qu'il y en a qui écoutent, et qui ne reçoivent pas, qui écoutent, mais avec des oreilles bouchées, fermées, le cœur fermé. Mais la parole de Dieu s'adresse quand même à eux, parce que Jésus le dit, franchement, Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde entier est concerné par la parole de Dieu. Le monde entier, le Seigneur s'adresse à tous les hommes, à toutes les femmes, de toute race, de tout peuple, de toute ethnie. Le Seigneur s'adresse à tout le monde. Il ne fait pas de distinction entre les couleurs, entre les générations, entre les richesses et les pauvretés. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, que son nom soit béni. Alléluia. J'en reviens à mes moutons. Nous avons lu tout à l'heure ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie. Cherchez le chemin. Quels sont les anciens sentiers? Il est vrai, et nous sommes obligés de le constater, que nous vivons dans un monde en pleine évolution. Une évolution qui va très, très, très vite. Et une évolution à tous égards, dans tous les domaines. Ce domaine de la technologie, c'est quelque chose de faramineux. Ça va à une vitesse exponentielle, extraordinaire. Je ne suis pas très vieux, quand même un peu. Eh bien, je me souviens de l'époque où pour avoir un téléphone fixe, on le demandait au PTT à l'époque, et on avait le téléphone fixe qu'au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, enfin, l'employé des PTT venait installer le téléphone qui marchait, plus ou moins, et dont on se servait pour téléphoner ailleurs, on passait par l'Inter. Alors, on téléphonait, on passait par l'Inter. Donnez-moi le numéro un tel. Ce temps-là a passé, bien sûr. Un monde en pleine mutation, pleine évolution, le téléphone, la TV, la communication, Internet, les réseaux sociaux, etc., 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 j'en passe et des meilleurs, et même que je ne connais pas. Nous sommes aussi en pleine évolution par rapport à l'éducation, et je me pose une question, je ne vous la pose pas parce que je ne vous demande pas de me répondre. Qui éduque les enfants? Qui éduque les enfants? Il paraît qu'il y a ce qu'on appelle généralement l'éducation nationale. Mais est-ce que l'éducation nationale éduque, a-t-elle le rôle, la charge d'éduquer les enfants? Il me semble que c'est aux enfants, aux parents d'éduquer les enfants. Je crois que ça doit être le rôle, mais l'éducation nationale qui devrait être l'enseignement national prend la place. Mais enfin, qui éduque les enfants? Est-ce que c'est l'État, les parents, la télé, les écrans de toutes sortes, etc., etc.? Et je pense à l'Église. À l'Église de Jésus-Christ, qu'en est-il? Que devient-elle? Qui est-ce qui en prend soin? Qui est-ce qui s'en occupe? Qu'est-ce qui s'en charge? Oh, je sais bien. Il y a les écrans de télévision, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, enfin, il y a toutes sortes de nouvelles inventions qui nous sont proposées. Mais je pense que ce que la parole de Dieu nous dit, que ce sont les ministères qui doivent s'occuper de l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 12, ce sont les ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs et docteurs, les évangélistes. J'ose poser une question. Y en a-t-il encore de ces ministères? Y en a-t-il encore des apôtres, des docteurs, des pasteurs et évangélistes? Y en a-t-il encore? On trouve toutes sortes de prédicateurs ou de prêcheurs, mais de véritables hommes de Dieu, Et par la grâce de Dieu, il nous a été donné d'en connaître, de les suivre, d'être formés par eux, d'être conseillés par eux, et nous en avons de précieux souvenirs, que Dieu soit béni. Des hommes de Dieu, des apôtres, qui ont ouvert des églises, qui ont formé des pasteurs, qui ont formé des évangélistes. Et je me demande, à moins que je n'ai perdu la tête, outre la mémoire, qu'on en voit de moins en moins, pour ne pas être tout à fait pessimiste et défaitiste, pour ne pas dire, j'en vois pas trop. Alors, bien sûr, je parlais tout à l'heure des écrans, au travers desquels on diffuse tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On diffuse l'évangile, il y en a qui prêchent l'évangile sur les écrans, et c'est très bien. Quand c'est le véritable évangile, quand c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, quand c'est la croix du calvaire, quand la foi qui est proposée, d'accord. Mais quelquefois, c'est de la philosophie évangélique, si ça se dit. J'ai voulu brosser un tableau un peu noir. Ai-je eu raison de brosser un tableau noir? Et le tableau est-il celui que j'ai brossé? Est-il si noir que cela? Vous savez, quand on entend dire qu'on chante du honni à l'idée dans une assemblée de Dieu, je me pose des questions. Quand on sait que Dieu a l'idée a fait un pacte avec le diable et que derrière il y a des chrétiens qui chantent ces cantiques, je me demande si c'est noir ou brun ou marron ou je ne sais pas quoi. Alors la question se pose d'elle-même. Et je la poserai tout à l'heure, je vous ai dit, je vous pose des questions, mais je ne vous demande pas de réponse. Quelle est la solution? Y a-t-il besoin de chercher une solution? Avons-nous besoin d'une solution? Avons-nous soif d'une solution? Cherchons-nous vraiment une solution à ce problème, à ce mal qui ronge les églises, qui détruit les églises? Quelle est la solution? Quel est le remède? Dans Psaume 27 et verset 11, le psalmiste s'écrie, « Éternel, enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi ta voix. » Il y en a des voies. Des chemins, on en trouve de partout. Il y a beaucoup de voies, beaucoup de chemins qui nous sont proposés. Oui, mais qu'en sort-il? Où nous mènent-elles ces voies? Est-ce qu'on ne va pas contre un mur? On ne va pas dans un précipice? Vous avez vu dernièrement ces ouragans qui ont balayé les rues. Et les rues ont laissé place à un trou béant. C'était une belle voie au début. Et puis un ouragan, un tremblement de terre, un glissement de terre, et puis c'est un trou. Il y a un trou où il y a des voitures, il y a des camions qui sont dans ce trou. Ça a été une catastrophe et le village est séparé du reste du monde. Et quelquefois, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Montre-moi ta voix, non pas n'importe quelle voix, mais ta voix. Enseigne-moi éternel et enseigne-moi ta voix. Les voies peuvent mener à notre satisfaction, à la gloire du moi ou à la gloire de Dieu. Jérémie 6,16, nous l'avons lu, ainsi parle l'Éternel, demandez quels sont les anciens sentiers, la bonne voie, marchez-vous, marchez-y. Quels sont les anciens sentiers? Ah, moi, je vous l'avais dit, Bouchami et ringard. On m'a traité un jour de ringard, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans une pastorale, on nous avait proposé qu'une sœur, je n'ai rien contre les sœurs, j'aime beaucoup les sœurs, qu'une sœur, veuve d'un missionnaire, eh bien, pourrait occuper la place de secrétaire de secteur. Secrétaire de secteur. Moi, j'ai rien contre. la personne en elle-même, mais même la fonction qu'elle occuperait. Je n'ai rien contre. Le seul problème, c'est que le secrétaire est au courant de tout ce qui se passe. Le courant connaît les problèmes du pasteur et sa famille, connaît les problèmes de l'Église, etc. Et de fil en aiguille, eh bien, le secrétaire, et entre guillemets, la secrétaire, parce que ça n'a pas marché, eh bien, par voie de conséquence, finirait par être au courant de tout savoir. Mais si c'est le pasteur, un pasteur, ça ne change pas grand-chose. Mais si ce n'est pas une pasteur, elle devient pasteur. Alors l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que la femme enseigne. Je ne veux pas que la femme enseigne. Il n'était pas normal, c'est la raison pour laquelle je me suis opposé. Et c'est la raison pour laquelle on m'a traité de ringard. Je me suis opposé à ce que cette sœur devienne secrétaire de secteur. Elle a fait de moi un ringard, parce que je n'étais pas moderne. Oh, que j'aime ce mot. Je n'étais pas moderne. Je n'étais pas à la page. Et il y a des quantités de gens qui sont modernes. Ah, bien sûr. Ils font n'importe quoi et ils croient que c'est de la modernité. Non. C'est un peu n'importe quoi. Voilà donc la solution, le remède de Dieu et non celui des hommes. Un vieux remède, certes, mais un remède efficace. Il y a beaucoup de nouveaux remèdes à cause desquels on se bagarre, mais il y a de vieux remèdes qui fonctionnent toujours et qui sont toujours efficaces, et en l'occurrence, celui de la parole de Dieu. Ainsi par l'Éternel, demandez quels sont les anciens sentiers. Pas de nouvelles voies, pas de nouvelles, des nouveautés, parce qu'on cherche des nouveautés, un nouvel évangile, une nouvelle prédication. On a demandé à un serviteur de Dieu à Paris, tenez-vous bien, vous êtes assis, accrochez-vous aux rampes. On lui a demandé de ne plus prêcher la repentance. On lui a demandé de ne plus prêcher la repentance. Alors s'il ne prêche pas la repentance, que prêche-t-il? Qu'a-t-il le droit de prêcher? Si un serviteur de Dieu ne prêche pas la repentance, qu'il aille planter des pommes de terre. Il aura plus de résultats. Non. Jésus a commencé, Jean-Baptiste a commencé par la prédication de la repentance. Jésus a poursuivi en commençant par prêcher la repentance. Et puis Pierre a commencé en prêchant la repentance. Mais on a interdit à ce pasteur à Paris de ne plus prêcher la repentance. Oui, un nouvel évangile. Un évangile à l'eau de rose. Un faux évangile. Et que contiennent-ils ces anciens sentiers? Dans Hébreux 12, 13, si j'arrive à le retrouver. Merci. Oui, dans Hébreux 12, 13, il dit... il vaut mieux que je vous lise le texte parce que... Voilà, j'y suis. J'avais mis des marque-pages. Verset 12 du chapitre 13, non, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés et qu'il y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. Et qui, pour un mets de lentilles, vendit son droit d'aînesse. Suivez des droits, des voies droites. Pas des voies sinueuses qui comportent forcément des lacunes, Et Dieu connaît ce qui lui appartient. Il sait comment nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes pas parfaits, et c'est la raison pour laquelle il nous a donné la parole de Dieu, pour nous parfaire, pour nous sanctifier. Mais il connaît aussi la bonne volonté quand elle est associée à la foi et à l'obéissance, en suivant des voies droites. Marcher de manière droite. Moi, j'ai de la peine physiquement, mais bon. Il ne faut pas biaiser, il ne faut pas faire des détours, il ne faut pas faire chercher des justificatifs qui sont forcément fallacieux. Tout cela ne sert qu'à perdre du temps et se priver de la bénédiction de Dieu. Dans les Proverbes 4, 26, il est écrit « Que toutes tes voies soient bien réglées, comme au niveau ou au diapason de la parole de Dieu, et non selon tes propres règles. Que tes voies soient bien réglées comme au diapason, comme au niveau. » Quand on fait un mur, eh bien, on a intérêt à avoir un niveau d'eau pour qu'il soit horizontal et vertical. Et si le mur n'est pas correctement construit d'une manière horizontale et verticale, un jour ou l'autre, et plus tôt qu'on croirait, eh bien, il s'effondrera. Au diapason, la musique doit être réglée au diapason, bien sûr. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est rappelé, il est annoncé, au début c'est une annonce, mais après on s'en rappelle, en disant que le chemin est resserré et que le chemin qui mène à la vie est resserré. Il est étroit, il est resserré, c'est une voie étroite. Quand on lit ces versets, on est obligé, on sait qu'il concerne le salut de notre âme, qui s'obtient par une véritable conversion. Ah, la conversion. La conversion, c'est un changement de mentalité. Pas une simple adhésion intellectuelle. Pas une simple adhésion à une doctrine. Parce qu'une doctrine, ce n'est rien du tout. C'est un ramassis de textes. Une doctrine, c'est rien du tout. On peut en ajouter, on peut en retrancher. C'est rien du tout. Mais un changement de vie, un changement de mentalité qui fait suite à une véritable repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance est dans un premier temps la prise de conscience du péché. On se rend compte de ce qu'on est. Un jour, j'ai discuté avec un musulman, je crois que c'était en bas, au rez-de-chaussée, au moment du repas, et je lui parlais du péché. J'ai dit, nous sommes pécheurs. Il m'a dit, oui, j'ai fait des péchés. J'ai dit, mais vous êtes un pécheur. Oh, j'ai commis des péchés. Voilà, il prend ça à la légère, de manière superficielle, par sous la jambe. Hein, et il n'a pas pris conscience de son état réel, un pécheur. Autrement dit, quelqu'un qui est rongé à l'intérieur par le péché. Le péché est à l'intérieur du cœur de l'homme et il le ronge. Ce qui fait après qu'il s'extériorise par la pensée, par la parole, par les actes. Ce n'est pas seulement la pensée, mais son être tout entier s'exprime par le péché quand il est pécheur, quand il n'est pas sauvé. Et un changement de vie consiste à prendre conscience par la repentance de ce qu'est le péché et en le rejetant, bien sûr. Mais ça, c'est personnel. Et c'est indispensable pour répondre au sacrifice de Jésus. Quand on est en face de la croix, en présence de la croix, en présence virtuellement, de la mort de Jésus, on ne peut pas rester insensible et se dire « je ne suis pas si mauvais que cela ». Regarde-le, il est en train de mourir pour toi. Regarde-le, il est en train de rendre ton âme pour toi. Regarde-le sur ton dos, il y a tous tes péchés, toute ton iniquité, elle est là sur lui. Et tu ne peux pas rester insensible. Tu es fait de bois ou quoi? Tu es fait de pierre? Tu ne peux pas prendre conscience que Jésus meurt pour toi. Et il te dit ce matin « je meurs pour toi ». Je meurs pour toi. Et il dira à Jésus après, ben, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et se dire que la vie chrétienne, c'est pas un voyage d'agrément. C'est pas un voyage d'agrément. La vie chrétienne, c'est à la fois difficile et facile. Il y a une espèce de contradiction dans ce que je viens de dire, mais il y a les deux. Un homme qui n'est pas régénéré n'est pas vivre, ne peut pas vivre chrétiennement. Ce n'est pas possible. Il essaiera bien. Il essaiera de copier les copains, les copines. Il essaiera de faire comme tous les autres, mais ça ne sera jamais qu'une copie et non pas l'original. Et nous devons être des hommes, des femmes qui vivent de vérité et non pas de copie, bien sûr. Et la vie chrétienne est un chemin étroit. C'est Alain Delon qui avait dit un jour, quand on vient au monde, on vient tout seul, et quand on meurt tout seul. Et en réalité, on est toujours tout seul. Même si on est marié et on a des enfants, eh bien, notre vie, elle nous est personnelle. Et le soir, quand on se couche et quand on est sous ses draps, eh bien, on reste avec soi-même. On pense à sa propre vie. Et on parle à soi-même, on est tout seul. C'est pas vrai? Essayez de dire le contraire. La vie chrétienne est un chemin étroit où on vit tout seul. Mais la voie chrétienne, la vie chrétienne, c'est une voie ascendante. Dans Proverbe 15, 24, il est écrit pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Et d'après ce texte, le sentier de la vie mène en haut en nous détachant de ce qui est en bas. Ça paraît logique. Il nous détache de ce qui est en bas pour nous attacher à ce qui est en haut. Il y a là une notion, vous l'avez compris bien sûr, la notion de progrès spirituel, de croissance spirituelle, de prise de responsabilité spirituelle, de choix des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, leur dit, et par voie de conséquence, il nous le dit, à moins que nous ne nous sentions pas concernés, mais nous sommes concernés quand même. Il dit, Paul aux Colossiens et aux Aubanais, cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut non, et non à celles de la terre, celles qui viennent du ciel, que Dieu donne. Cherchez les choses d'en haut, attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alors quelqu'un me posera la question de savoir, mais quelles sont-elles, ces choses d'en haut? Ben, celles qui viennent de Dieu, évidemment. Celles qui viennent du ciel. Celles que Dieu donne. Celles que Dieu a préparées pour nous. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné le salut. Il nous a donné la communion avec lui. Il nous a donné le salut. Il nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Il nous a donné les dons spirituels. Il nous a donné l'amour, la joie, il nous a donné la foi, l'espérance. Il nous a donné d'attendre le retour du Seigneur et c'est la raison pour laquelle il nous dit « Attendez et hâtez l'avènement du Fils de Dieu. Attendez, est-ce que vous attendez le Seigneur ?» Est-ce que vous attendez le Seigneur ? Alors de deux choses, une, ou vous attendez le Seigneur en vous détachant des choses de la terre, ou alors en disant « Non Seigneur, attends un peu Seigneur. » J'ai entendu un jour une jeune fille dire « Attends, Seigneur, ne reviens pas, il faut que je me marie avant. Il faut que je me marie avant que tu viennes. » Ouais, ben voyons. Hein? Le Seigneur va attendre que tu te maries ou que tu meurs. Cherchez les choses en haut, attachez-vous, affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. quand on pense à ce que le Seigneur a dit concernant les choses de la terre, on est obligé de lui donner raison. Pas vrai? On est obligé de lui donner raison parce qu'il nous dit que là-haut dans le ciel, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille. Il n'y a rien qui détruit les choses. Tout reste parfait, tout reste pur, tout est éternel. Mais c'est sur la terre. Il n'y a pas de rouille chez vous. Il n'y a pas de teigne chez vous. Il n'y a pas de voleur chez vous. Il y a une sœur de l'Assemblée, enfin, qui était dans l'Assemblée, qui habite à Marseille. Eh bien, elle vient d'être cambriolée. Merci. Et cambriolée en plein jour en plus, par quatre garçons. Ils l'ont surveillée, et quand ils ont vu qu'elle est rentrée dans un grand magasin, ils ont mis le chaos chez elle. Ils l'ont cambriolée, en cherchant de l'argent, en cherchant des bijoux, bien sûr. Mais sur la terre, c'est comme ça que les choses se passent. Hein? C'est comme ça que les choses se passent. Oh, oh. Je ne suis pas tout seul. Hein? C'est comme ça. Les choses, on ne les garde pas toujours. Je suis resté un an, pile 365 jours, absent de chez moi, à cause de du Guillain-Barré, un mois à l'hôpital, 8 mois à la Bourbonne et 3 mois à Saint-François. Un an. Et quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 3 de mes 4 véhicules perdus. Je les ai donnés à la casse. Donnés, gratuitement. Ils étaient invendables, irrécupérables. Et alors je me suis dit, tu ne les as vraiment jamais eus. Alors s'ils ont disparu, ben c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et je dis toujours que ce qui est grave, ce n'est pas la perte de l'argent ou la perte des choses de la terre. Ce qui est grave, c'est la mort du pécheur. Quand un homme, une femme meurt sans avoir fait la paix avec Dieu, ça c'est ce qu'il y a de plus grave au monde. C'est la chose la plus grave. Il peut perdre tout son argent, il peut perdre sa santé, il peut perdre sa famille, il peut perdre tous ses biens, mais il perd, c'est le personnel, c'est irrécupérable. Et puis dans Psaume 3, Proverbe 3, verset 17, il est écrit, « Ces voix sont des voix agréables. » Les voix de Dieu sont agréables, parce que tous ces sentiers sont paisibles. Est-ce que vous êtes heureux dans le Seigneur? Amen. Oh là là, c'est tonitruant votre réponse. Hein? Oui. J'ai rien entendu, mais ça fait rien. Beaucoup de gens ont regretté, pas vous, d'avoir rencontré et suivi Jésus. Alors la question se pose, puisqu'ils ont tellement de regrets d'avoir suivi Jésus, la question est celle-ci, l'ont-ils vraiment suivi? L'ont-ils vraiment rencontré? Ont-ils vraiment fait la paix avec Dieu en donnant leur cœur? Je me pose la question, parce qu'il me semble impossible qu'un homme qui a vraiment rencontré le Seigneur, qui s'est vraiment converti, puisse le regretter et tourner le dos. Ça me paraît impossible. On ne peut pas avoir vraiment rencontré le Seigneur, avoir s'être vraiment converti, c'est-à-dire changer carrément de mentalité, aimer Dieu, aimer les choses de Dieu, et retourner en arrière, ça me paraît impossible. Ils ont peut-être fait un peu comme Pierre, ils ont suivi de loin. Mais les voies de Dieu sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, leur dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et nous nous réjouissons parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Que Dieu soit béni. Ces voies sont agréables parce que ces sentiers sont des sentiers paisibles. Abraham partit. Il n'a jamais regretté d'être parti d'abord, qui était Ur en Chaldée. Il partit, c'est extraordinaire, sans savoir où il allait. Mais il a entendu l'appel de Dieu, quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et par la foi, il a levé le camp, et il est parti sans savoir où il allait. Et quand je me suis converti, je ne savais pas où j'allais. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait de ma vie. Bien sûr, il y en a qui ont juré de me couper la tête. Hein? Mon frère a juré de m'égorger parce qu'il croyait rendre un culte à Dieu. Mais il n'a pas eu le temps, il est mort avant. Abraham partit sans savoir où il allait parce qu'il avait confiance en Dieu et il se retrouva en Canaan sans le savoir. Mais nous, nous savons où nous allons. Est-ce que vous savez où vous allez? Oh là là! Vous êtes encourageant, je ne vous dis pas. Est-ce que vous savez où vous allez? Hein? Alléluia! Matthieu se leva. Quand Dieu l'appela, quand le Seigneur l'appela, toi, suis-moi. Et ce n'était pas rien. C'était un fonctionnaire de haut rang. Il était percepteur des impôts. Mais quand on a entendu la voix du Seigneur, « Toi, suis-moi », il se leva par la foi et l'obéissance et il suivit Jésus. Il ne l'a jamais regretté. Il ne savait pas ce qu'il allait advenir de lui. Mais n'empêche que sa foi et son obéissance ont fait de lui un apôtre et un écrivain sacré. Il a écrit l'évangile qui porte son nom, et il devint un des 12 apôtres, que Dieu soit béni. Mais il se leva et il partit. Et combien d'hommes et de femmes, combien de frères et de sœurs, ils ont entendu l'appel de Dieu dans une petite assemblée, et ils sont arrivés au bout du monde. Ils sont allés, par exemple, au bout du monde à prêcher l'évangile. Il est vrai que les anciens sentiers ne sont pas faciles. Ils sont difficiles. Il y a des difficultés, il y a des épines, il y a des épreuves, il y a des pierres, il y a de la souffrance. On rencontre de l'incompréhension, même de la part des siens. Hein? Même de la part des siens, il est dit que les nôtres se lèveront contre nous. Et je connais ça, et vous connaissez ça, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils soient ringards, les anciens sentiers, non. Qu'ils ne soient pas de notre temps. Ils ne sont pas périmés, obsolètes. Ils restent d'actualité, que Dieu soit béni. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Et nous faisons bien de nous attacher à sa parole et garder dans notre cœur sa parole et de suivre sa parole et que sa parole, parce que c'est elle qui est le bon chemin, que Dieu soit béni. L'Épître aux Hébreux nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins sont les croyants de l'ancienne alliance, mais il y a les témoins de la nouvelle alliance qui nous ont précédés depuis des millénaires, bien sûr. Elle nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance, ayant les regards fixés sur Jésus. Ne recherchons donc pas, et n'écoutons pas, et ne suivons donc pas un nouvel évangile, un évangile moderne, un évangile où il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment qualifier ça. Je suis allé à Bastia un jour, en dehors de l'assemblée, dans un groupe. Il y avait un groupe là, dans un HLM qui se réunissait. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils avaient des drapeaux, ils les agitaient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, fait venir le Saint-Esprit. Avec des drapeaux comme ça. C'est de la superstition. C'est de la magie, de la superstition. Au moins ça marche, mais ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Ne recherchons donc pas un évangile facile. Un évangile à l'eau de rose, où tout est permis. Rien n'est interdit. Ne cherchons pas les fables qui endorment, mais soyons vigilants. Et surtout, ne perdons pas notre couronne et ne permettons à personne de nous la ravir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle bénisse nos cœurs. Te louons et te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Te louons, Seigneur, pour le privilège que nous avons de t'avoir rencontré un jour. C'est vrai que nous sommes passés par une tristesse, mais une tristesse à salut, parce que nous avons passé par la repentance. Et nous te bénissons pour cette expérience qui a changé notre vie, qui a fait de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations, qui a fait de nous de tes enfants. Et nous te bénissons, Seigneur, et nous ne regretterons jamais cette expérience. Et merci pour toutes les expériences que nous avons faites avec toi, que tu as permis que nous fassions. Te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Mais nous savons que le meilleur est toujours devant nous. Ton retour, ta venue, l'enlèvement de l'Église à laquelle nous aspirons et que nous attendons de tout notre cœur. Bénis ces quelques paroles, Seigneur, et pardonne les infirmités de la prédication. Sois béni, Seigneur, et sois loué dans le nom de Jésus. Amen.